Madame Julie Kasakasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes la directrice d'une ONG qui s'occupe de l'encadrement et de l'insertion sociale des sourds-muets. Quelle activité votre ONG organise concrètement dans la prise en charge de personnes sourdes-muettes?
Bon, à part la formation en langue des signes, nous organisons l'alphabétisation parce que pour la plupart, les sourds sont des analphabètes. Dans la plupart de leurs familles, ils n'ont pas ce souci-là de les faire étudier parce que pour eux, ils trouvent qu'ils sont inutiles, quoi. Donc, ce que nous faisons, nous les alphabétisons, donc c'est ce que leur apprendre à lire, à écrire. Et puis, nous les envoyons dans des formations aux métiers comme la cordonnerie industrielle, la menuiserie, la couture, l'esthétique. Et la coiffure, l'informatique. Parce que là, on n'a pas besoin de langage vraiment et les sourds sont très doués en informatique. Donc, c'est là les différentes formations auxquelles on les envoie et une fois qu'ils sont là, on fait des projets pour chercher des financements afin qu'ils trouvent en même temps du travail.
Comment vous arrivez à communiquer avec toutes ces personnes?
J'ai appris la langue des sourds parce qu'au niveau de l'ONG, nous avons des gens qui apprennent. Donc, même les parents des sourds ou d'autres personnes qui ont ce fardeau là aussi de travailler comme encadreur, interprète, formateur. On les enseigne, on leur apprend la langue des sourds.
Vous travaillez avec les sourds ici. Ça fait longtemps que vous évoluez ensemble avec eux. Nous supposons que vous les connaissez suffisamment. Est-ce que vous estimez que malgré qu'ils sont privés de la parole, ils ont une caution intellectuelle qu'on ne peut pas négliger pour le développement d'une société?
En tout cas, ce sont des personnes très intelligentes, très profondes, hein, qui ont une grande intuition. Je travaille avec eux, ils sont vraiment très intelligents, très doués, et ils savent se faire comprendre. Donc, quand ils sont en face d'une personne qui ne connaît pas la langue des signes, en tout cas, ils utilisent tous les moyens pour pouvoir se faire comprendre. Donc, je ne me plains pas du temps que je passe avec eux. Ils connaissent, et surtout le travail manuel, ils connaissent ça très bien. Donc, en coiffure, ce sont des experts. Si vous les voyez à l'œuvre pour la coiffure, l'esthétique, le brushing, la manicure, c'est terrible. Ils font très bien leur travail, donc ils n'ont même pas de préjugés, quoi, par rapport aux entendants. Il n'y a aucune différence. Et on a même qui s'y prennent mieux que les entendants.
Maintenant, vous encadrez environ combien de sourds?
Au niveau de l'ONG, j'en 450 sourds. On essaie de les aider un temps soit peu, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'ils aient une occupation, qu'ils arrivent quand même à se nourrir, à avoir quelque chose, au lieu de dépendre tout le temps indéfiniment de leur famille.
Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté dans votre travail de prise en charge de cette catégorie de personnes?
Bon, la grande difficulté, c'est d'essayer de changer leur mentalité. Parce que jusque-là, quand je les ai rencontrés, ils vivaient comme à l'état animal, quoi, sans morale. Il n'y avait pas de règles. Ils pouvaient s'appeler comme ils voulaient. Ils faisaient des enfants en désordre. Déjà, eux, ils sont à charge de leur famille. Et ces enfants qu'ils faisaient là, sans travail, sans rien, ce qu'ils faisaient, c'était plus la mendicité. Alors, on a essayé de les moraliser, de leur donner une autre opinion d'eux-mêmes, de leur faire comprendre qu'ils étaient des personnes à part entière. Et ils ont changé de mentalité. Et maintenant, ils s'accouplent plus comme des animaux. On les encourage à se marier, à chercher du travail. On leur faire comprendre même que eux aussi peuvent même prendre en charge leur femme.
Pensez-vous que une personne sourde muette bien formée peut assumer oui. De grandes responsabilités dans la société?
Oui, je suis convaincue de cela, surtout parce que dans d'autres cieux, comme en Afrique du Sud, par exemple, il y a un député qui est sourd. Aux États-Unis, il y a des professeurs d'université qui sont sourds. Du moment qu'on leur donne les moyens de développer leur potentialité, ils peuvent arriver à quelque chose autant que nous les entendons. Par contre, en les laissant comme ça, c'est une perte pour la société parce qu'ils seront à charge de la société à vie. Je déplore le fait que l'État ne s'occupe pas du tout de ces gens parce que jusqu'à présent, les sourds ne font pas les examens d'État. Donc, ce n'est pas organisé au niveau de l'État.
Quelles recommandations pouvez-vous orienter tant aux autorités qu'à toute la nation congolaise?
En tout cas, mon souhait d'abord, c'est qu'au niveau d'abord de l'enseignement, qu'on installe comme système l'enseignement de la langue des signes pour permettre l'insertion des sourds dans la société. Parce qu'il y a des écoles où on a mis ce programme-là, on apprend aux élèves la langue des signes. Comme ça, quand il rencontre une personne sourde, il peut engager la conversation. Et je voulais qu'on généralise ça, comme on a mis l'anglais à tous les niveaux, dans toutes les écoles, il y a le programme d'anglais. Alors si on installe le programme de la langue des signes à tous les niveaux, ça facilitera l'insertion des sourds dans la société. Parce que là, nous en sommes en train de les former, mais il y a quand même un grand handicap pour les gens qui doivent les engager. Par exemple, je souhaiterais avoir un chauffeur sourd. Mais si déjà je me dis, au niveau de la conversation, de la communication, il y a un problème, ça ne m'encourage pas à l'engager. Mais si déjà au niveau de la nation, tout le monde est capable de parler la langue des signes, ça facilitera l'insertion des sourds. Moi, facilement, je les ai engagés parce que je parle la langue des signes. Mais quelqu'un qui ne sait pas parler cette langue trouve...
Merci, madame. Merci.